Donc, il y aura encore trois cours, un aujourd'hui, un le 27 avril, mercredi prochain, et le dernier cours le 4 mai. Dans cette sorte de courrier des auditeurs que nous avons institué, vous vous rappelez qu'à l'un de mes derniers cours, j'avais parlé de la nourriture et des repas de la séquestrée de Poitiers. Et notamment, j'avais indiqué que cette séquestrée mangeait le soir une tasse de chocolat de la compagnie coloniale et un gâteau appelé jésuite. Et j'avais dit que je ne savais pas ce qu'était ce gâteau appelé jésuite. Alors très gentiment, on m'a donné à la fois, on m'a donné des précisions et même on m'a offert ce gâteau. Alors les précisions sont, je dois le dire, le résultat de ces précisions est quelque peu insaisissable, ce qui n'a rien d'étonnant pour un jésuite. Car d'une part, il y a une version qui dit que ce gâteau appelé jésuite est un gâteau fourré d'une sorte de frangipane. Mais d'autre part, une autre version dit que c'est un gâteau qui en apparence est tout au chocolat, mais dont l'intérieur est constitué de couches de meringue et de chocolat. Et on dit que dans ces conditions, le gâteau cache bien son jeu comme un jésuite. Je pencherai pour cette définition, puisque le sombre du chocolat appelle le noir du jésuite, comme on le lit dans le titre du roman de Stendhal, Le rouge et le noir. Bon, j'en viens maintenant à quelques dernières figures. Celle qui vient maintenant et qui est courte a un nom un peu particulier que je vais expliquer naturellement. Ce nom, c'est la proxémie, P-R-O-X-E-M-I-E, proxémie. Pour expliquer ce que c'est que la proxémie, je vais partir d'un geste tout à fait usuel et quotidien que chacun de nous peut faire. C'est le soir, je me couche, j'éteins la lumière, je m'enfonce sous les couvertures pour dormir. Mais à ce moment-là, j'ai besoin de me moucher. Et dans l'obscurité, j'allonge le bras, j'atteins sans me tromper le premier tiroir de la table de nuit, et dans ce tiroir, non moins infailliblement, je saisis un mouchoir qui est à droite. Je repose et je referme tout cela dans l'obscurité. Eh bien, ceci me paraît être l'épisode type qui permet de poser précisément la notion de proxémie. Cette notion repose sur un néologisme, en anglais proxemics, qui a été proposé par un auteur qui s'appelle E.T. Hall, H-A-2-L, en 1966, dans un livre qui s'appelle en français, car il a été traduit en 1971, qui s'appelle « La dimension cachée », et la proxémics, donc la proxémie, c'est, paraît-il, l'ensemble des observations et théories concernant l'usage que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique, qui implique donc, disons, une dialectique de la distance. Alors, en ce qui me concerne, j'aimerais bien utiliser le mot « proxémie », mais en l'appliquant seulement à l'espace très restreint qui entoure immédiatement le sujet. C'est donc, la proxémie désigne l'espace du regard familier, des objets que l'on peut atteindre avec le bras sans bouger, presque à l'aveuglette, d'où mon exemple initial. C'est l'espace privilégié du sommeil, du repos, du travail sédentaire chez soi. Et Abraham Moll, qui a un peu étudié ou qui a perçu l'importance de cette notion, appelle cet espace proxémique la sphère du geste immédiat. La sphère du geste immédiat. le mètre cube, le mètre cube, des gestes d'atteinte à partir du corps immobile. C'est donc un micro-espace. Alors, les exemples donnés par Moll, c'est pêle-mêle, l'enfant dans son petit lit, l'homme d'affaires à son bureau, l'intellectuel à sa table, le retraité dans son fauteuil, entre la télévision, la pipe, les lunettes, les journaux, etc. Et moi, ici aussi, j'ai un espace proxémique, n'est-ce pas, qui est ceci, enfin, les micros formant la limite de cette proxémie. Alors, la proxémie ferait partie d'une typologie des espaces subjectifs, c'est-à-dire en tant que le sujet les habite affectivement. Il faut bien comprendre qu'à ce moment-là, cet espace proxémique, qui est un micro-espace, prend place dans une sorte de liste descendante des espaces habités par l'homme. L'espace affectif le plus vaste, celui qui vient en tête de liste, qui ensuite va décroître, nous l'avons rencontré plusieurs fois et nous allons encore le rencontrer, c'est le territoire, n'est-ce pas, ou le domaine. Vient ensuite, espace plus restreint, ce que j'appellerais le repère, qui est plus étroit, plus petit que le domaine. Le repère, c'est la chambre, la hutte de Robinson Crusoe, l'appartement des colons dans l'île mystérieuse, et disons que pour nous, bien, c'est la maison ou l'appartement, en se rappelant cette définition de Chambard de Lauve, sociologue de ce genre de phénomène, n'est-ce pas, quand il dit la famille, c'est l'ensemble des gens qui vivent à l'abri d'une même clé. Le repère, c'est donc ce qui dépend d'une seule et même clé. Troisièmement, en descendant toujours, le lieu proxémique, un peu vaste, ce serait la niche ou le nid. On pourrait l'appeler, cet espace proxémique, la niche ou le nid. C'est-à-dire, en un certain sens, d'abord là où le regard porte, le regard ou l'odeur ou le bruit, bien sûr. Deuxièmement, là, c'est-à-dire là où le regard porte, c'est le territoire, n'est-ce pas ? Où l'odeur ou le bruit porte, c'est ce qui définit le territoire animal. Alors, en descendant, on trouve là où l'on emporte, là où l'on recèle, c'est le repère. Et troisièmement, là où l'on atteint, là où l'on touche, et c'est la niche, le nid, l'espace proxémique. Il me semble qu'il y a deux objets dans la civilisation manufacturée qui sont par statut créateurs de proxémie, c'est-à-dire d'espace proxémique. Ces deux objets sont la lampe et le lit. Ce sont des objets centres auxquels le sujet tend à s'identifier. Je veux dire quelques mots maintenant de la lampe, mais peut-être j'aimerais qu'on essaye de fermer la fenêtre. C'est possible, non ? Non. Un petit peu, on la rouvrira après au besoin. Merci. Donc, je dis quelques mots sur la lampe qui est donnée ici comme objet, type d'objet centre, cristallisateur de proxémie. Cet objet, la lampe, si vous voulez, s'inscrit dans une famille d'objets de créateurs de proxémie qui a varié, évidemment, avec l'histoire, selon l'histoire. Vous savez très bien, ce sont des faits d'observation, de simple bon sens ou de culture minimale. Pendant des millénaires, l'objet cristallisateur de proxémie pour l'homme, ça a été l'âtre, le feu, la source de chaleur et la source visible. Ceci étant rattaché à toute une symbolique du feu. Nous savons très bien que dans une maison ancienne, par exemple, un poêle pour se chauffer, enfin, personnellement, j'ai vécu ça dans mon enfance et dans mon adolescence, un poêle, c'est-à-dire un moment où le chauffage central n'était pas tellement usuel, un poêle est moins proxémique, si je puis dire, qu'un feu de bois. le feu de bois est vraiment une source complète de cristallisation d'espace par l'odeur, par la lumière qui est à la fois douce et vive, et par cette espèce d'agitation du feu qu'on voit et qui est comme une sorte de spectacle à incident. C'est pas un feu de bois, c'est un spectacle où il se passe toujours quelque chose. Alors qu'au contraire, le poêle est un mauvais cristallisateur d'espace proxémique parce que on ne voit rien. Je pense qu'aujourd'hui, mais tout ceci serait à étudier en finesse, et peut-être est-ce que c'est fait, je n'en sais rien. Aujourd'hui, c'est bien sûr l'écran de télévision qui tend à remplacer le foyer. Et entre le feu, l'âtre, et la télévision, l'écran de télévision, il y a un objet important entre les deux règnes, si vous voulez, de l'âtre d'une part, règne périmé aujourd'hui, sauf dans les fermettes à poutres apparentes, n'est-ce pas, mais entre le feu de bois qui est périmé et l'écran de télévision, il y a eu un objet donc important historiquement, créateur de micro-espaces sédentaires, et ça a été la lampe. La lampe est prise dans un style de civilisation. Là aussi, il faut rétablir des parcours. Vous avez eu d'abord, si on prend simplement l'âge électrique, n'est-ce pas, vous avez eu des habitations ou des salles éclairées seulement par une ampoule qui tombe du plafond, sans abat-jour. C'est par exemple ce qui se passait, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, dans la salle commune des fermes à la campagne, où il y avait simplement une ampoule, n'est-ce pas? Ensuite, il y a, disons, un degré supérieur, si vous voulez dire, si on peut dire, la suspension, qui correspond historiquement au règne de la salle à manger petite bourgeoise. Et troisièmement, donc, la lampe, qui va souvent avec la suppression de la lumière centrale au plafond. Ceci, c'est simplement pour indiquer que je pense qu'il y a une histoire de l'éclairage qui est à faire, une diachronie qui peut être encore actualisée par chacun d'entre nous, par exemple le long d'un voyage en train où on plonge dans des intérieurs et des états de civilisation très différents, pas, selon que le train parcourt des campagnes véritables, des banlieues ou des intérieurs de villes. Et il faudrait aussi noter que donc la proxémie est différente selon ces états de civilisation. Quand la salle est éclairée simplement par une ampoule au plafond, il n'y a aucune proxémie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intériorité, si je puis dire, de l'intérieur. L'intérieur n'est pas pourvu de l'attribut éthique et pathétique de l'intériorité. Ce sont des salles sans intériorité, sans lieu d'intériorité. Deuxièmement, lorsqu'il y a la suspension qui pend au-dessus de la table centrale, il y a un début de proxémie. C'est la proxémie familiale. Autour de la table à manger, qui est débarrassée, elle perpétue sa fonction proxémique, puisque elle sert à la lecture du journal, aux devoirs de l'écolier et aux jeux. Voilà. Donc il y a là un espace proxémique qui se crée et qui est un espace micro-collectif familial. Enfin, troisièmement, la lampe crée une proxémie très forte car elle isole la table d'écriture, le fauteuil, elle crée, disons, une sorte d'être éclairé et de néant obscur. Et par un renversement paradoxal mais logique, bien sûr, l'obscurité complète met à nu le geste d'habitude. Et donc, c'est l'obscurité qui, finalement, peut créer l'essence même de proxémie. L'essence de moi-même, c'est ce que je n'ai même pas besoin de voir pour en jouir. C'est là où je suis le plus près à ce que je crois de moi-même. Je dirais qu'il y a des tests de proxémie, il y a des épreuves de proxémie, des épreuves subjectives, bien entendu. Par exemple, en ce qui me concerne, il faut dire que, bien sûr, si je fais une figure de la proxémie, c'est que je me connais moi-même comme un être assez proxémique, n'est-ce pas, et goûtant les délices de la proxémie. Eh bien, à ce moment-là, il est évident que j'ai des épreuves, je peux éprouver dans la vie les vicissitudes de la contre-proxémie. Par exemple, à l'hôtel, je perçois comme quelque chose de désagréable la mauvaise lampe de chevet. Elles sont toujours très mauvaises, n'est-ce pas ? On ne peut pas lire avec. Le fait qu'il n'y ait pas de lampe de travail, pas de table et pas de lampe de travail, et qu'il y ait dans une chambre d'hôtel une obscurité sans familiarité. Et d'autre part, on peut imaginer des proxémies baroques et artificielles, comme celle que a essayé de reconstituer la compagnie des wagons-lits quand elle a créé ce modèle d'une extrême sophistication qu'est la cabine de wagon-lit, où tout est fait pour vous donner la sensation que vous habitez un espace riche du point de vue proxémique, comme si vous étiez vraiment chez vous, n'est-ce pas, avec une lampe individuelle pour lire au lit, un filet vide-poche pour mettre les affaires de vos poches dedans, et puis même un clou pour la montre. Voilà pour la lampe. Deuxième objet cristallisateur de proxémie, bien entendu, le lit. Le lit de malade, en particulier, représente la proxémie la plus forte, la plus fortement vécue et souvent la mieux organisée. Je me rappelle avoir vu, il y a déjà longtemps, dans un magazine, une photographie, d'ailleurs très belle, où on voyait Matisse, le peintre Matisse, à la fin de sa vie. Je ne sais pas, il était immobilisé par la maladie, j'ai oublié, et il travaillait au lit, dans un lit superbe, très beau, très confortable, avec une grande table sur ses genoux, enfin lui étant au lit, pour dessiner des tables à côté avec ses pinceaux, ses godets, et on avait l'impression d'un espace supérieurement organisé, lui étant immobile au milieu. Alors, dans la littérature, je l'ai déjà dit, l'exemple type du lit centre, du lit cristallisateur, c'est dans Proust le lit de la tante Léonie. Vous savez, c'est un lit qui est disposé, où elle passe sa vie au lit, n'est-ce pas ? Alors, d'un côté, il y a les fenêtres qui donnent sur la rue, de l'autre, il y a une commode jaune et une table qui sert, dit Proust, d'officine et de maître-autel, n'est-ce pas ? Elle est là, entourée par les fenêtres et les tables. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la tante Léonie, sans du tout prévoir que je ferai ce cours, si je puis dire, a elle-même fixé les trois stades de la proxémie dont j'ai parlé, n'est-ce pas ? Le territoire, le repère et la niche. Car, dit Proust, la tante Léonie n'a pas voulu quitter Combray, ça c'est le territoire, Combray, puis sa maison, ça c'est le repère, puis son lit. C'est la niche, le nid. Donc le lit, c'est l'essence même de la proxémie, et il fait en quelque sorte partie du corps. C'est comme une prothèse du corps. Le corps se vit dans le lit comme un cinquième membre. C'est-à-dire, il n'est pas la somme de ses quatre membres, il est un cinquième membre à lui tout seul, et ce membre dans le lit est comme le corps lui-même est comme un organe au repos. Deux ou trois faits que je vous signale au gré de mes lectures. Les moines de la Tosse, avant la constitution des couvents, c'est-à-dire tout au début de la Tosse, eh bien, on nous dit qu'ils ne possédaient absolument rien, qu'ils n'avaient ni domicile ni objet, mais qu'ils se déplaçaient à pied en portant sur leur dos leur unique mobilier, la natte sur laquelle ils reposaient le soir. Donc, tout, plutôt rien, rien sauf le lit. Et deuxième fait que je vous signale, c'est le curieux attachement de Spinoza à son lit. À la mort du père de Spinoza, on partage les objets entre les enfants. Et je cite son biographe ici, « Cependant, quand il fut question de faire le partage, Spinoza leur abandonna tout, leur, c'est-à-dire à ses frères et à ses sœurs. Bah, il leur abandonna tout et ne se réserva pour son usage qu'un seul lit qui était à la vérité fort bon et le tour de lit qui en dépendait. Voilà donc Spinoza, philosophe de la proxémie. Le lit, bien entendu, est un merveilleux objet créateur de proxémie parce que, vous le savez, c'est un foyer d'expansion fantasmatique du sujet. Premièrement, au lit, le sujet fantasme par la lecture. Deuxièmement, dans certains cas, c'est le cas de la tante Léonie, il peut fantasmer par la fenêtre. Si le lit est près d'une fenêtre, c'est le poste d'un guet confortable. Et Léonie, de son lit, surveille la rue, voit entrer les gens et même les chiens chez l'épicier, et donc elle sait absolument tout ce qui se passe à Combray. Troisièmement, le lit est un espace de fantasmatisation par une sorte d'élaboration imaginaire que Proust a décrite justement à l'occasion de Léonie, quand il nous dit que Léonie, pour se distraire, dans son lit, invente des péripéties imaginaires qu'elle suit avec passion. Par exemple, que Françoise la vole. Hein? Et Proust appelle cela le spectacle dans un lit. Le spectacle dans un lit. Alors, de là, on pourrait imaginer peut-être une certaine typologie possible. D'un côté, les sujets qui ont un bon rapport à leur lit. Et vous entendez bien que je ne décris absolument pas le lit d'une façon stéréotypée comme un symbole de paresse, n'est-ce pas? C'est pas du tout ainsi que je l'ai décrit. Donc, d'un côté, les sujets qui ont un bon rapport à leur lit, je dirais un rapport riche, un rapport multifonctionnel. Et de l'autre côté, en face, les sujets qui n'ont aucun rapport à leur lit, pour qui le lit est un objet indifférent, impersonnel, purement fonctionnel, dormir. Autrement dit, les sujets qui ont d'un côté les sujets qui ont besoin de se constituer une proxémie pour travailler, par exemple, et de l'autre, les sujets qui peuvent travailler partout sans se constituer un espace proxémique. Bon, j'ai eu l'occasion plusieurs fois dans des interviews, n'est-ce pas, d'indiquer combien me paraît important dans la pratique d'écriture ou de travail ces problèmes dont on parle rarement et qui sont les problèmes d'organisation de l'espace proxémique du travail, n'est-ce pas? Encore une fois, il y aurait certainement une sorte de typologie des écrivains, ou enfin en tout cas des écrivains à faire, selon l'investissement qu'ils mettent dans leur entour immédiat de travail, leur table, les instruments graphiques, tous les accessoires de papeterie, les lieux de classement, pas des écrivains pour qui c'est très important, est minutieusement organisé, d'une façon évidemment para-obsessionnelle, et au contraire, les écrivains qui n'en ont absolument pas besoin et qui peuvent travailler n'importe où, sur une table de café, avec une feuille de papier et une pointe bic. Voilà, pour la proxémie. J'en viens maintenant à une autre figure qui n'est pas longue non plus, qui porte le nom de rectangle. Je partirai de cette constatation que nous sommes une civilisation du rectangle. Nous sommes une civilisation du rectangle. On a réfléchi déjà sur l'habitat, et en particulier les phénomènes de perception de l'habitat par le sujet humain. Or, notre habitat, et cela depuis fort longtemps, notre habitat à nous, maintenant, contemporain, est constitué, réfléchissez ou regardez, par une majorité écrasante d'angles droits ou d'angles aigus. Ou d'angle plat, enfin d'angle à 90 degrés ou à 180 degrés. Les maisons, tout est rectangle. Les maisons, les immeubles, les portes, les fenêtres, les toits, les ascenseurs, tout est rectangle. Or, dans la nature, mettez des guillemets si vous voulez à ce mot, mais enfin, par rapport à l'habitat construit, ça existe provisoirement, la nature. Dans la nature, il n'y a pas de rectangle, sauf, disons, quelques pans de rochers ici et là. Et en conséquence, puisqu'on associe aujourd'hui la ville, l'habitat et la pollution, on pourrait dire qu'il y a une pollution par le rectangle. Le rectangle est un objet polluant. Et les agents de cette pollution par le rectangle sont tout simplement, bien entendu, les architectes. Les architectes qui, pendant très longtemps en tout cas, je ne sais pas ce qu'il y en est maintenant, mais ont institué et maintenu la tyrannie de ce qu'on appelle pudiquement les tracés régulateurs, qui sont en fait des rectangles. Et Le Corbusier disait « tout architecte doit y recourir ». Tout architecte doit recourir au rectangle. Naturellement, il y a un accord évident entre le rectangle et la raison. Le rectangle est une forme raisonnable. Il y a une idéologie géométrique du rectangle qui vient des Grecs, probablement, et vous rappelez que à propos de la figure chambre, nous avons opposé l'archétype de la cabane, qui est une maison rectangulaire qui vient des Grecs, à l'archétype de la tente, qui est un espace rond et disposé radialement. Il y a peut-être une sorte d'idéologie, sans se payer de mots, il y a peut-être une certaine idéologie ou infra-idéologie ou ur-idéologie, idéologie première, profonde, du rectangle. Et peut-être, qui sait, on pourrait à ce moment-là mettre le rectangle en rapport avec quelque chose que nous allons voir d'ailleurs dans un instant, qui est l'origine du mot, l'étymologie du mot latin rex. Rex, c'est celui, nous allons voir ça en détail, n'est-ce pas? Rex, c'est celui qui tire les tracés. Rex, ça ne veut pas dire à l'origine le roi, si vous voulez, ou ça veut dire le roi en tant qu'il est le magistrat religieux qui fonde les villes en tirant des traits, en traçant les limites de la ville. Et donc, à ce moment-là, le rectangle, ce serait comme une sorte, enfin, disons que je fais peut-être une sorte de symbolisme un peu facile, enfin, j'en sais rien, mais le rectangle, ça serait comme une forme simple du pouvoir, si vous voulez. Alors, je passe d'ici, de cette civilisation du rectangle, je vais me poser la question du cadre. En effet, il y a deux faits ou deux thèmes d'investigation qui permettent de constater, je dirais, le caractère pleinement artificiel ou pleinement culturel, si vous voulez, du rectangle. Le rectangle est un objet historique, culturel et peut-être même névrotique. Et ces deux thèmes sont liés tous les deux au rapport du rectangle et de l'image, de la mise en image, de l'imagerie. Première observation. Le rectangle, vous le savez, si vous pensez aux arts plastiques, le rectangle, c'est la forme archétypique de l'encadrement pictural, n'est-ce pas ? Une peinture est couramment encadrée par un rectangle. C'est-à-dire que nous sommes habitués, en tout cas, très largement, même si maintenant ça commence à se subvertir, mais pendant très longtemps, nous avons été habitués à mettre l'image en cadre, à ne jamais donner une image sans l'encadrer. Cadre, vous le savez, ça veut dire carré étymologiquement, n'est-ce pas ? Quadrato, ça veut dire carré. Mais le carré, je dirais, n'est en somme que la forme pensée, la forme pure, la forme ésotérique du rectangle. Donc, le cadre auquel nous sommes habitués, quand nous pensons image, peinture, photographie, Tout de suite, nous sommes habitués à voir cette image dans un cadre, dans un rectangle, ou de forme rectangulaire. Mais il faut bien se rappeler que encadrer l'image est une pratique relativement tardive. Dans l'art préhistorique, l'image n'était jamais encadrée. Les peintures rupestres du paléolithique présentent des images sur fond non préparé, à même la paroi de la grotte. Et la clôture homogène de l'image par un trait rectangulaire ou par une limite rectangulaire est intervenue seulement environ au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ce qui dans l'histoire de l'humanité est relativement récent. Alors, c'est un dossier ouvert, naturellement. Je ne pose que l'ouverture du dossier, qui est le dossier du rectangle et de la peinture. Bien sûr, c'est un dossier où il y a beaucoup d'études, déjà beaucoup d'éléments. Notamment, tout cela est assez bien rassemblé dans une thèse de troisième cycle qui vient d'être soutenue par Yves-Alain Bois, mais qui n'est pas encore publiée. Il y a aussi, Meyer Shapiro a aussi étudié tous ces problèmes de rectangularisation de l'image. Mais bien entendu, il faudrait étudier le cadre rectangle au-delà de la peinture, au théâtre, rappeler enfin tout le débat sur la scène à l'italienne, qui est une scène rectangulaire, n'est-ce pas, avec le rideau qui dessine un rectangle, et aussi l'écran cinématographique, qui est un écran rectangulaire. Donc, partout, nous retrouvons ce problème du rectangle. Et je dirais de l'oppression du rectangle. Alors, ceci appelle la deuxième observation que je voudrais faire, qui est de l'ordre du psychique. Le critique ou l'historien dont j'ai parlé, qui est Meyer Shapiro, a écrit du rectangle. Un tel champ ne correspond à rien dans la nature. Il ne correspond à rien dans la nature ou dans l'imagerie mentale, où les fantômes de la mémoire visuelle apparaissent dans un vague sans limite. Alors je pense que cette proposition que le rectangle n'existe pas dans l'imagerie mentale, je pense qu'elle n'est pas exacte, ou qu'elle n'est pas en tout cas toujours exacte. Je pense qu'il existe dans l'imagerie mentale, comme dit Meyer Shapiro, il existe un recours à l'image cadrée, c'est-à-dire à l'image rectangularisée. Et précisément dans certains épisodes de l'activité imaginaire, celle qui engage le sujet dans des images coalescentes auxquelles il colle. Et je dirais qu'à ce moment-là, le cadre intérieur est comme le superlatif de l'image, ce qui accomplit l'image. On dirait à ce moment-là que la perversion imaginaire requiert précisément, impérieusement, le cadre, la découpe rectangulaire ou encore le cerne. J'ai parlé de ce problème dans le séminaire sur le discours amoureux à l'école des hautes études à propos d'une figure que j'avais appelée le ravissement, le rapt, l'énamoration, le coup de foudre si vous voulez, et j'avais proposé là une petite théorie, n'est-ce pas, de l'encadrement de l'image. Parce que il semble bien que ce qu'on appelle le coup de foudre ou l'énamoration brusque, c'est-à-dire le fait qu'un sujet est ravi et capturé par une image, suppose en fait qu'il est ou il a été ou il se croit ou il s'est cru être capturé par une image qu'il voit ou qu'il revoit toujours cadrée ou encadrée. L'objet aimé ou l'objet à aimer apparaît brusquement dans le coup de foudre, d'abord comme une silhouette découpée, ou bien tel détail fétichisable du corps apparaît comme un détail découpé, cerné, isolé. Et c'est pour l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis comme image de couverture au livre sur le discours amoureux un détail fortement cadré, qui sont les deux bras, les deux mains de Toby et de l'ange, n'est-ce pas, en les encadrant, parce que c'est exactement le type même, je crois, de l'image amoureuse, que ce détail fétichisé et cadré. Deuxièmement, la vision, dans le coup de foudre, la vision de l'objet que l'on va aimer, c'est une vision donc qui vient dans un cadre, qu'on voit ou qu'on revoit dans un cadre. Et troisièmement, je l'avais indiqué, l'objet aimé ou l'objet que l'on va aimer, l'objet qui vous ravit, est toujours vu en situation, c'est-à-dire en train de faire quelque chose. J'expliquais à ce moment-là que probablement il n'y a que dans les contes de fées et dans les imageries très irréelles qu'un sujet peut tomber amoureux d'un portrait, par exemple. Encore le portrait est-il cadré, n'est-ce pas ? Mais un portrait, c'est-à-dire l'image d'un être qui ne fait rien, il me paraît difficile de tomber amoureux de quelqu'un qui ne fait rien. Et si on pense, il faudrait, bon, là, constituer une sorte de dossier aussi sur les coups de foudre de la littérature, il doit y avoir un certain nombre dans les romans, eh bien, on s'apercevrait qu'en général, la scène de capture est toujours une scène où l'objet aimé est saisi brusquement par le sujet en train de faire quelque chose. C'était dans Werther, bien entendu, le cas de Charlotte, qui apparaît à Werther brusquement, encadrée par la porte de la maison, comme dans un rectangle, et en train de couper des tartines, ce qui est un épisode célèbre. Et j'avais rappelé aussi que dans L'homme au loup, dans L'homme au loup de Freud, l'homme au loup a un sentiment, disons, érotique à l'égard de la jeune bonne, Groucha, qui est décrite complaisamment, si je puis dire, en train de travailler. Elle est agenouillée par terre, elle brosse le plancher. Et troisième exemple, bien connu aussi, qui est celui de la Gradiva de Jensen, car le jeune archéologue tombe amoureux de la Gradiva, c'est-à-dire d'une image antique, et cette Gradiva, elle est d'une part encadrée, puisqu'il l'a vue dans un bas-relief, n'est-ce pas, qui est le type même du rectangle, du cadre, et que d'autre part, elle est précisément en train de faire quelque chose, puisqu'elle est en train de marcher, un pied levé. Gradiva, ça veut dire celle qui avance, celle qui est en train de marcher. Donc, il existe probablement une réalité du rectangle dans le champ imaginaire. Alors, dernière question pour le rectangle. Comment, si l'envie nous en prend, comment subvertir le rectangle ? Comment subvertir le rectangle ? Ça serait un immense dossier, c'est pas du tout vain comme question. Dossier, encore une fois, qui s'alimenterait à tous les arts du spectacle et aux arts plastiques, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture, au théâtre, au cinéma, à la bande dessinée, enfin partout où il y a des images. Alors, pour cela, il faudrait bien entendu, pour se guider dans l'exploration de ce dossier, il faudrait réexaminer la fonction de ce qui s'oppose paradigmatiquement, ou imaginairement en tout cas, au rectangle, qui est le rond, l'arrondi. Il faudrait faire une analyse des formes rondes en ce qu'elles supplantent, parce que ça n'a d'intérêt qu'à travers une analyse paradigmatique, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas d'établir une sorte d'ontologie du rond. Ce qu'il faut étudier, c'est le paradigme du rond et du rectangle. Donc, analyse des formes rondes en tant qu'elles supplantent ou sont supplantées par le rectangle. Alors ici, division du dossier, je m'excuse, c'est comme si je faisais un peu des plans de devoir, mais je vais très vite. Le théâtre antique, n'est-ce pas, pièce maîtresse du dossier, le théâtre antique, puisque ce théâtre a commencé comme un théâtre rond, entièrement circulaire, le théâtre grec classique, l'orchestra, c'est-à-dire l'espace où on joue, est entièrement rond, entièrement circulaire, que vous savez qu'ensuite les Latins ont fermé, si je puis dire, une moitié du cercle, c'est-à-dire ont fait des théâtres semi-circulaires, et vous savez que la scène, ce qu'on appelle la scène, était d'abord dans le théâtre entièrement circulaire des anciens Grecs, c'était d'abord la tente où les acteurs s'habillaient, n'est-ce pas ? Skéna, ça veut dire la tente, le pavillon. Et ils sortaient de la scène Il ne jouait pas du tout sur la scène. Il sortait de la scène et jouait devant la scène, c'est-à-dire au fond du cercle, mais dans le cercle. Et c'était l'espace qu'on appelait le proscenium. Et puis, bon, ensuite, ça a changé et c'est devenu la scène est devenu ce rectangle sur lequel les acteurs jouent et l'orchestre a été rempli par les spectateurs. Donc, on peut dire que tout le théâtre est une sorte de témoignage de la lutte entre le rectangle et le cirque. Et que périodiquement, il y a des tentatives de retour à l'arrondi, dans le théâtre en rond, par exemple. Voilà. Deuxième observation, dans ce dossier des subversions du rectangle, eh bien, dans l'art pictural lui-même, bien sûr, il y a eu de très nombreuses tentatives pour absenter ou pour casser le cadre, le rectangle. Et c'est évidemment toute l'histoire de l'espace pictural qu'il faudrait reprendre, en tout cas depuis Cézanne, et bien sûr, ailleurs qu'en Occident, puisque la peinture orientale, la peinture chinoise en particulier, est une peinture qui désencadre l'image, n'est-ce pas ? C'est une peinture sans cadre, sans rectangle. C'est une civilisation où le rectangle est beaucoup moins tyrannique que chez nous. Je signale un fait moins connu, peut-être, sauf des fanatiques de la bande dessinée, c'est que dans l'histoire de la bande dessinée, il y a eu des subversions astucieuses du cadre, du rectangle. La bande dessinée s'est attaquée au rectangle. Déjà, l'auteur de Bécassine s'appelait Pinchon. Certes, il continuait à cerner les images, de son livre d'illustration, mais il donnait à ce cerne des formes très variées qui n'étaient pas forcément rectangulaires. Et aussi, je rappelle, enfin, ça c'est une petite digression, très souvent, l'imagerie d'Épinal n'est pas une imagerie cernée. C'est une imagerie où l'image est flottante, sans rectangle. Et puis, toujours dans l'histoire de la bande dessinée, il y a eu même un dessinateur qui s'appelait Fred, ou qui s'appelle Fred, je ne sais pas, qui a fait dialoguer ou se combattre des personnages d'un cadre à l'autre, n'est-ce pas ? C'est-à-dire un cadre, un personnage sort un bras de son cadre pour atteindre un personnage qui est dans l'autre, dans une autre image. Alors, ce serait intéressant, je dirais du point de vue métaphorique, de voir comment la subversion d'une forme et d'un archétype, à savoir le rectangle, ne se fait pas forcément par la forme contraire, mais, donc pas forcément par le rond, si vous voulez, mais d'une façon plus retorse, en gardant la forme, mais en lui inventant un jeu de superposition, d'annulation et de débordement. C'est pas comme ce créateur de bande dessinée garde effectivement l'encadré de l'image, le rectangle de l'image, il ne subvertit pas le cadre directement, mais il le subvertit en le débordant et en établissant des ponts d'un rectangle à l'autre. J'en viens maintenant à la troisième image de cette séance, la troisième figure de cette séance, qui s'intitule « La règle ». Un mot sur « regula », le mot latin « regula », « regula ». Benveniste, dans toujours le livre si important « Le vocabulaire des institutions indo-européennes », a montré, donc j'en ai dit un mot à l'instant, que « rex » en latin, ça n'est pas du tout le chef, mais c'est celui qui détermine les espaces consacrés, les villes, les territoires. Autrement dit, c'est celui qui trace. Et en effet, rego, rego en latin, rego, rex vient du verbe rego, ou apparenté au verbe rego, et rego est apparenté au grec orego. Orego qui veut dire étendre en ligne droite. Le grec opposé, deux verbes, orego, étendre en ligne droite, comme ça, et petanumi, qui est étendre en largeur, hein, comme ça. Étendre comme ça, et étendre comme ça, orego. Et c'est ainsi que, donc, orego, ça veut dire à partir du point qu'on occupe, tirer vers l'avant une ligne droite. C'est ce que fait le Rex, le roi. Quand il fonde une ville, il se met là et il tire les lignes, les droites, dans un certain sens à partir de lui. Se porter en avant dans la direction d'une ligne droite. Et il y a une très belle métaphore dans Homère à propos des chevaux, et donc le verbe orego, là, désigne ce mouvement par lequel les chevaux s'étirent de toute leur longueur en bondissant. Enfin, s'étirer de toute sa longueur en bondissant. De cette racine rego rex, qui veut dire tracé en ligne droite, vient, vous le devinez, le mot regio, la région, regio, qui est le point atteint en ligne droite, ce qu'on peut atteindre en ligne droite. Et aussi, bien sûr, regula, qui est l'instrument à tracer la droite. Alors, tout ce processus étymologique, je l'ai rappelé parce qu'il permet, et je crois que c'est éclairant, de lier règle, au sens monastique, si vous voulez, du mot, règle, qui vient de regula, et territoire. Territoire, regio, au fond, regio, territoire. Territoire peut être rattaché à clôture, c'est ce que j'ai fait la fois précédente, mais peut-être encore mieux à règle. Et par exemple, Robinson Crusoe, lorsqu'il s'organise, lorsqu'il prend en main sa vie solitaire pour un temps dont il ne connaît pas à l'avance, eh bien, il fait deux choses en même temps. Quand il prend en main son destin d'homme solitaire, de colon solitaire, il fait deux choses en même temps. Premièrement, il trace l'emplacement de la maison, et deuxièmement, il se fixe une règle de vie, ce qu'on appellerait un timing. C'est pas ? À la fois, il se trace un territoire, rex, rego, regio, et en même temps, il se donne une règle de vie, regula. Et donc, il nous faut à partir de là rappeler encore une fois la notion éthologique de territoire. J'insiste parce que je crois que c'est important. Alors, je ne veux pas non plus redire trop ce que j'ai dit, je ne fais que le rappeler. Le territoire, donc, du point de vue des mœurs des animaux, de l'éthologie, c'est l'espace approprié à l'animal qui est défendu contre les intrusions d'autres animaux, n'est-ce pas ? Et les animaux à territoire, c'est par exemple l'homme, qui est un animal territorial, le rouge-gorge, le cerf. C'est-à-dire, le territoire, c'est cet espace où l'animal, où l'individu animal est dominant chez lui. Mais aussi, c'est un espace qui est lié à des fonctions récurrentes, donc en termes humains, à des habitudes. Il y a plusieurs types de territoires, n'est-ce pas ? Le territoire est défini comme lieu à la fois de reproduction, de parade, d'accouplement, de nidification et de recherche de nourriture. C'est donc un territoire multifonctionnel. C'est le cas, paraît-il, des territoires des fauvettes et des rouges-gorges. Deuxièmement, le territoire peut ne servir seulement qu'à la reproduction et à la nidification, et les rivaux, dans le processus sexuel, les rivaux s'affrontent à la frontière de chaque territoire. C'est le cas pour les vanneaux. Et troisièmement, le territoire peut n'être que le nid et que quelques décimètres carrés qui l'entourent, les couples donc se touchant presque, comme c'est le cas pour les mouettes. Et puis, il y a des territorialités qui durent toute l'année, dans le cas des rouges-gorges, et il y a des territorialités épisodiques, uniquement pendant la période de reproduction. Ce que je voudrais faire maintenant à propos du territoire, puisque je vais rappeler ce que c'était, c'est dire que quand on passe au plan humain, on rencontre bien sûr la notion de domaine. Le territoire se monnaie en domaine. Par exemple, dans Robinson Crusoe, Robinson s'arrange un domaine. Il a une forteresse, une demeure qu'il aménage comme une forteresse. Il a deux pièces de blé pour se nourrir. Il a une maison de campagne avec une vigne qui lui donne du très bon vin. et il a un parc pour le bétail et un lieu pour la pirogue. Et ça nous rappelle que Daniel Defoe lui-même, à la fin de sa vie, s'était arrangé, un peu selon le même principe, une maison extrêmement confortable à Stoke Newington, qu'il a embelli sans cesse avec des écuries, des communs, un verger, un grand jardin dessiné par Defoe lui-même, etc. Dans la montagne magique, il y a aussi un domaine territoire. Il y a deux lieux, le pays plat, qui est le pays des gens qui ne sont pas malades, et les gens d'en haut, c'est-à-dire les malades, qui précisément sont les gens soumis à une règle, Régula. Et dans Pobouille, il y a aussi des problèmes de territoire, de domaine. Il y a, si vous voulez, deux divisions d'espace qui se recoupent. D'une part, l'espace des maîtres d'un côté et l'espace des domestiques de l'autre, avec des cours différentes, la cour intérieure des cuisines, qui est une sorte de cour égout où les bonnes déversent à la fois les tripées de lapin, comme dit Zola, et des injures, et de l'autre côté, les maîtres, l'espace des maîtres, le domaine, le territoire des maîtres, mais ce territoire des maîtres est un territoire qui est lui-même divisé en hauteur le long de l'immeuble selon le standing, n'est-ce pas ? Dans les maisons bourgeoises d'autrefois, le standing d'argent et de respectabilité décroissait avec les étages, pour aboutir aux chambres de bonne qui maintenant valent très cher, enfin, etc. Alors, tous ces domaines, ce que je voudrais dire, c'est qu'elles sont liées à des règles de vie spécifiques. C'est-à-dire que mon idée, c'est qu'on passe immédiatement de la notion de domaine au sens spatial du terme à la notion de règles, d'espace, de règles de vie. Il faut d'abord rappeler que la fonction générique du territoire n'est pas seulement lié à la sécurité, mais à une contrainte de distance. Le territoire sert à espacer les sujets les uns des autres, à régler la distance d'un sujet à l'autre. Et cet espacement intra-territorial, c'est-à-dire à l'intérieur du territoire, diminue en cas de danger. Par exemple, dans les bancs de poissons ou les vols des tourneaux, quand il y a un danger, les individus se resserrent, n'est-ce pas ? Et quand le danger est passé, les individus reprennent une certaine distance. Il reprend ses distances. Il faudrait interroger l'expression toute faite, reprendre ses distances. Et c'est ainsi qu'est fondée la notion de distance critique qui régit les rapports entre les individus. Et ce sera précisément une fonction de la règle, c'est pas régula, que de mettre en œuvre ou en scène cette distance critique. Je pense qu'on peut considérer, en effet, métonymiquement, tout système de règles régulé, tout système de règles de vie, je pense qu'on peut considérer tout système de règles comme un territoire. C'est un territoire, soit temporel, timing, organisation du temps, soit gestuelle, organisation des conduites. Ici se pose le rapport de la règle et de la coutume. La règle, contrairement à ce que le mot peut vous sonner chez vous actuellement, il faut bien se rappeler que la règle, c'est un système d'habitude, avec un accent actif, disons. C'est la mise en système d'habitude, une règle. Voilà comment je définirais la règle. La règle, régula, n'est-ce pas, c'est de la mise en système d'habitude. Et il ne faut pas oublier que la règle, même la règle monastique, qui nous paraît de loin maintenant, et même de près sans doute, très contraignante, à l'origine, l'origine de la règle monastique est une origine coutumière. C'est très important parce que ça permet d'opposer, tout au moins à l'origine, la règle et la loi, comme nous allons le voir. Les principaux fondateurs des règles monastiques ont d'abord donné à la règle l'allure d'un simple coutumier. Saint Basile, Saint Augustin, Saint Benoît et Saint Antoine pour les ermites ont dit, disons, une espèce d'adage de tous ces fondateurs de cénobitisme et de règles, point de règles, mais des coutumes. Point de règles, mais des coutumes. Bien entendu, la règle est un instrument de maîtrise. C'est-à-dire qu'elle est liée à l'ascèse, mais il faut jamais oublier, quand on emploie le mot ascèse, que en grec, askésis, ça n'a pas le caractère forcément castrateur et mutilant et oppressif du mot ascèse en français, n'est-ce pas? Askésis, c'est simplement l'effort méthodique, l'exercice. Et il ne faut pas limiter le mot ascèse à la mortification. Askésis, c'est au fond l'idée de régler, l'idée de maîtriser, l'idée de conduire. De conduire, le sujet se met en position, en pouvoir de conduire le temps, les désirs, l'espace, les objets. Et dans cette implication de maîtrise, on retrouve les notions étymologiques de orego. La règle, c'est une manière d'étendre le temps en ligne droite, de tracer des régions de temps et de gestes. Et même, je dirais que la métaphore des chevaux homériques, dont j'ai dit que je la trouvais si belle, elle convient très bien à la règle paradoxale et originale de l'idiorythmie. S'étirer de toute sa longueur en bondissant. S'étirer de toute sa longueur en bondissant. Tel est, me semble-t-il, le temps idiorythmique. Un temps régulier, mais bondissant, rebondissant. Un temps régulier mais léger. Troisième étape, la règle coutume va malheureusement s'orienter vers la règle loi par l'adjonction d'un système répressif qui se produit par l'intermédiaire de la notion de contrat. Saint Benoît, 6e siècle, édicte que, après un novice qui pourtant lui avait dit pas de règles mais des coutumes, n'est-ce pas? Mais bon, il y a un entraînement de la loi qui fait que Saint Benoît édicte qu'après un noviciat d'un an, le jeune moine accède à la profession, c'est un contrat bilatéral entre la communauté et le professe. Et l'enjeu de ce contrat, c'est la stabilité, qui est très précieuse à l'époque. Et peut-être pas seulement à l'époque, puisque maintenant, c'est un thème aussi, la stabilité de l'emploi. Donc, d'une part, le couvent ou l'ordre donne au professe la stabilité, il lui assure la stabilité toute sa vie, et en revanche, le professe donne l'obéissance à la règle, avec, bien entendu, les notions conséquentes d'infraction et de punition. Et déjà, le successeur de Pacôme, le premier fondateur de monastères en Égypte, faisait signer par les moines une profession d'obéissance aux règles. Enfin, déjà à ce moment-là, donc, en même temps que l'on disait que point de règles mais des coutumes, en même temps, la règle était déjà une loi. En effet, dès que la règle est prise dans un contrat, il s'ensuit des infractions à ce contrat, des désobéissances et donc des punitions, et le cycle mauvais est établi. Quelques faits, le successeur de Pacôme, qui s'appelait Chehoudé, et qui régnait sur un groupe de monastères, eh bien tout de suite, évidemment, il ne peut pas s'empêcher d'établir une liste d'infractions pour ses moines. Interdiction de sortir du couvent malgré la règle, interdiction de s'en évader la nuit pour parler aux moines chassés, ne pas se livrer à des soins excessifs de toilette, ne pas voler des douceurs à l'infirmerie, ne pas se réserver une part des produits fabriqués pour les parents et les amis. On peut dire qu'à ce moment-là, sur la règle, s'édifie déjà l'internat, la caserne, elles sont déjà là. Ils sont déjà là. Et sous la règle, la loi revient donc, avec une force irrésistible. On dirait qu'il y a dans le sujet humain comme une pulsion de loi, pulsion paradoxale, puisque ce serait une pulsion, je dirais, idéologique, dans la mesure où la loi est le retournement idéologique du pouvoir, son vêtement. Par exemple, c'est très bien dit dans ce roman dont j'ai parlé deux ou trois fois, qui est le roman de Golding, roman anglais, qui s'appelle Lord of the Flies, Seigneur des Mouches. Vous savez que c'est l'histoire d'une bande d'enfants qui, par la suite d'un accident d'avion, sont sur une île déserte sans aucun adulte et qui doivent organiser leur vie. Et voici ce que Golding dit. Dès que les enfants... Il ne le dit pas, mais c'est moi qui traduis, n'est-ce pas ? Dès que les enfants découvrent qu'ils vont être leurs propres maîtres sur l'île, eh bien, il y a passage instantané de l'état de nature à l'état de règlement, c'est donc à la loi. Et l'un des enfants dit, il s'appelle Jack, qui est l'un des leaders, quand il voit qu'ils sont seuls, que les enfants, ils sont seulement des enfants sur l'île, il s'écrie avec une jubilation intense, « On aura des règlements, s'écria-t-il avec enthousiasme, des tas de règlements, alors ceux qui désobéiront, plusieurs points. » Autre exemple, je prends mes exemples un peu partout, après, lié au problème de la drogue, aux États-Unis, il y a eu, il y a quelques années, peut-être existe-t-elle toujours, en Californie, une communauté appelée Synanon, S-Y-N-A-N-O-N, qui est une communauté de 200 garçons et filles qui étaient issus du monde de la drogue. Et cette communauté était organisée comme un phalanstère aux règles très précises. C'est-à-dire que là, on voyait fonctionner immédiatement la transformation de la règle en loi. Par exemple, pendant un temps, quand on entrait dans cette communauté, on n'avait pas le droit de faire l'amour. Et au bout d'un certain temps, on avait la possibilité de faire l'amour dans des chambres réservées. Et enfin, troisièmement, on avait, après un autre laps de temps, le droit de former des couples. Donc, la règle se transforme immédiatement en loi, je dirais, en loi matrimoniale. Alors, par ces deux touches, vous voyez bien où est l'articulation. Elle est entre la règle et le règlement. C'est là que le petit drame se joue, entre règle et règlement. Je dirais que la règle, c'est un acte éthique, et peut-être même dans certains cas, on pourrait dire un acte mystique, dont la fin, je le répète, est de donner à la vie, à la quotidienneté, une transparence. La règle, c'est un acte individuel qui peut être mis en commun dans de très petites communautés sous certaines conditions légères qui sont de l'ordre de, disons, installation d'habitudes communes qu'on assume peu à peu. C'est donc de l'ordre de la coutume, c'est-à-dire du non-écrit. La règle est de l'ordre du non-écrit, comme d'ailleurs la coutume. C'est pas, on rejoint ici un grand problème juridique de l'histoire du droit, l'opposition du non-écrit, du droit coutumier, qui est un droit non-écrit, au droit juridique, qui est un droit écrit. La règle est de l'ordre du non-écrit, alors que le règlement va être, bien sûr, de l'ordre de l'écrit. Et l'espace privilégié de la règle, c'est, je pense, précisément l'idiorythmie. Si nous voulons imaginer une utopie idiorythmique, par exemple, une petite communauté d'amis qui essaierait de s'organiser, eh bien, cette utopie ou l'imagination de cette utopie passerait forcément par ce problème fondamental qu'il faudrait de toute façon imaginer à cette communauté une règle, mais non pas un règlement. C'est là que passerait, disons, l'obligation statutaire de réussir. Pour réussir, il faudrait concevoir une règle sans concevoir un règlement. Car, deuxièmement, le règlement, c'est évidemment l'imposition du social comme pouvoir, par une médiation écrite, l'écriture. L'écriture qui est dépositaire de la loi, qui donc engendre l'infraction, c'est-à-dire le contresens. Le contresens, c'est ce qui va contre la loi de la lettre écrite. Si vous permettez, je prends encore 3 minutes pour terminer, n'est-ce pas ? Je voudrais dire que la ligne de partage, c'est là-dessus que je voudrais finir, entre la règle et le règlement, se voit bien si on observe deux pratiques extrêmes et contradictoires. La première, c'est la pratique qui a cours dans l'univers sadien. L'univers sadien, le monde sadien, repose sur l'opposition actualisée et maintenue toujours actualisée entre la règle et le règlement. C'est là qu'on voit le mieux l'opposition entre la règle et le règlement. Les messieurs, enfin, disons les libertins, puisqu'il y a aussi des femmes, les libertins pratiquent une règle. Ils ont entre eux, ils sont liés par une règle qui est consentie entre eux et qui est fondée notamment sur l'idée de revanche, c'est-à-dire qu'on consent à faire pour l'un ce qu'il fera ensuite pour vous. Mais en face, il y a les victimes qui, elles, sont soumises non pas à une règle, mais à un règlement. Et ce règlement, qui est impitoyable, comme vous le savez, est un règlement écrit. Dans les 120 journées, il y a le règlement écrit qui réglemente la journée des victimes et qui est une source de jouissance, ce règlement, quand il sert aux messieurs, et jouissance quand le règlement appliqué aux autres est vu à partir de la règle contractée entre soi. Donc il y a une aristocratie, un paradis de jouissance de la règle, et en face, un enfer du règlement. C'est là, je crois, une manifestation exemplaire de l'écart extrême entre la règle et le règlement. À l'inverse, ça sera ma dernière observation, il y a une pensée critique selon laquelle toute règle contient en germe un règlement et toute coutume est une forme déguisée de loi. C'est là une pensée très brechtienne. Je me réfère ici au mot de Brecht que Brecht a mis dans je ne sais plus laquelle de ses petites pièces appelées pièces didactiques. Hein. Je crois que c'est dans la pièce qui s'appelle « Celui qui dit oui ». Celui qui dit non, et cette formule, j'avais même pensé à un moment la mettre en citation initiale au livre sur les mythologies, parce que ça correspondait bien à ce que je pensais, enfin au travail même des mythologies à cette époque-là, cette phrase de Brecht, c'est « Sous la règle, découvrez l'abus ».« Sous la règle, découvrez l'abus ». Mais la règle ici, n'est-ce pas, c'est déjà un autre sens. C'est l'ensemble des opinions toutes faites, des conduites stéréotypées. Ce que Brecht appelle le grand usage. Cette espèce de sagesse toute faite qui vient dont on ne sait tout, d'où, et qui dicte au sujet, enfin à l'individu social, ce qu'il doit faire sans qu'il sache d'où ça vienne. Bien entendu, peut-être toute règle, même intérieure, tourne-t-elle au bout d'un certain temps en abus. Et peut-être faut-il secouer, à certains moments, sa propre règle. C'est très possible. Dans toute communauté, dans tout groupe, s'instaure insidieusement ce que Brecht appelle donc un grand usage. Et secouer le grand usage devient alors un geste, bien entendu, un acte incompris et illisible. Si je suis dans une communauté et que je secoue le grand usage de cette communauté, je produis un acte scandaleux, c'est-à-dire à proprement parler, incompréhensible. C'est ce qui s'est produit, je reviens à la littérature, à propos du roman d'Ossoïevski, Les frères Karamazov. Vous rappelez les rapports du starets Zosim et du plus jeune des frères Karamazov, Alyosha. Et vous rappelez que Alyosha a toutes les qualités pour se faire moine. Il est plein de santé, de pureté, de pudeur, il ne juge pas les autres, il n'accuse personne, il ne rappelle pas les offenses, il n'a pas d'orgueil, il n'est pas tenté par les biens matériels, et tout cela le prédestine logiquement à l'état monastique. Or, il se passe cette chose scandaleuse, qui va précisément contre le grand usage, c'est que le starets, en mourant, au lieu de lui enjoindre de se faire moine, ce qui aurait été se conformer au grand usage, lui enjoint au contraire de quitter le monastère et d'aller vivre dans le monde. de se marier et de vivre dans le monde. Et c'est tellement scandaleux, cette conduite, tellement contre le grand usage, que c'est tellement scandaleux que la conduite ou cet épisode des frères Karamazov a suscité la protestation d'un métropolite très réel qui s'appelait Antoine et qui représentait au début du 19e siècle ou du 20e siècle, peut-être, je ne sais pas, les jeunes moines russes, et qui a écrit ceci: Dostoïevski a commis ici, sous prétexte de pédagogie, un véritable péché contre la vérité, car en aucun cas le starets d'un monastère n'enverrait dans le monde un novice aussi ardent qu'Alyosha Karamazov. Eh bien, cet épisode, donc, illustre l'opposition de ces deux voies, VOX, la voie oppressive du grand usage, c'est-à-dire la voie de ceux qui disent « ça se fait, ça ne se fait pas », et la voie solitaire de la règle mystique, qui était donc ici incarnée par ce starets. Bon, la prochaine fois, les deux dernières figures.